taverne du vieux Londres, où se retrouvaient des étrangers. Nos voix criblées de joie montaient de l'ombre, et nous écoutions nos cœurs chanter.
C'est Je m'ennuie bien qui débute. Nous sommes en pleine forme car nous avons tous retrouvé des températures décentes. Bonsoir Madame Ginette.
Bonsoir.
Bonsoir Monsieur Kogan.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir Monsieur Edmond.
Bonsoir.
D'accord, ça commence bien.
Oui, allez, j'attaque tout de suite. Je vous lis un tout petit extrait d'un article du Monde qui vient de paraître.
On va pas dire aux gens qu'on va beaucoup rire pendant.
Non, non, on s'en
heure,
fout, on rigole pas, on n'est pas là pour
pas.
Ça, c'est bon.
Ben, ils sont...
Quand j'ai vu ça, j'étais dégoûté. Franchement, ils n'avaient qu'à nous refuser directement, réagit cet élève de terminale sciences et technologies du management et de la gestion STMG à Limoges. Amine était loin de s'imaginer que d'aussi longues listes d'attente pouvaient exister. Au lycée, on m'a dit qu'en licence, ils prenaient quasiment tout le monde. Oui, oui. Alors, les formations en licence sont dites non sélectives, explique le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche contacté par Le Monde. Si des dizaines de milliers de personnes peuvent se retrouver en liste d'attente sans être refusées, c'est que les universités sont tenues par la loi de classer tous les candidats du premier au dernier. Alors, c'est triste parce que, vous voyez, jusqu'au lycée, on dit aux élèves qu'ils sont formidables, qu'il n'y a plus de classement, qu'ils sont tous égaux, tout ça. Puis, alors, tout d'un coup, ils se mettent dans Parcoursup. Et alors là, donc, le mec, je crois, il est... 12 millième en liste d'attente.
Oh, c'est pas gagné.
Alors effectivement, nos jeunes, comment dire, ils prennent une petite claque. Merci Parcoursup. Voilà, c'était mon petit chanchon du début d'émission. Non, mais oui, je sais pas qui a pondu ce truc, mais c'est juste horrible, en fait. C'est juste horrible.
Oh, mais la personne qui a pondu Parcoursup, faut pas qu'elle prenne la route, hein.
Non, mais j'ai toujours pas compris quelle était l'idée derrière ça. Si ce n'est, j'imagine, faire des économies sur l'avenir d'un pays, mais bon, c'est quand même un calcul totalement foireux. Il suffit de regarder, enfin bon, je ne sais pas. Au total, 24 personnes ont été arrêtées à Londres. Des centaines de milliers de supporters étaient venus assister au défilé du club de football sacré champion d'Angleterre. Comme quoi, il n'y a pas que chez nous.
Oui, après, c'est eux quand même eux qui ont inventé le hooliganisme. Ils ont le brevet, mince.
Déjà, et le foot, d'ailleurs.
Et dans la même veine... Vous allez voir qu'ils ont fait quand même beaucoup plus fort. Londres, 6 personnes poignardées en marge de la parade de victoire d'Arsenal.
Qu'est-ce qu'on...
Oh, une fatigue, je vous jure.
On sait s'amuser.
Ah, le sport, quand même, ça rassemble, hein, c'est beau. On devrait tous le célébrer.
C'est fédérateur.
Ben oui, c'est fédérateur.
Comment on dit, c'est l'esprit du sport. Les valeurs du sport, voilà, les valeurs du sport.
Allez, j'ai reçu une publicité magnifique d'un ministère que je ne nommerai pas. Tourisme, des tarifs remisés sur les transports maritimes. Non, merci.
Vous faites allusion à quoi?
Ah, je fais allusion à rien du tout. Mais non, les croisières en ce moment, je ne sais pas, ça n'a pas la cote.
Reprenez un petit coup d'oscillococcinum.
Alors, je ne sais pas si Madame Ginette a vu ça, ce qui s'est passé aux USA lorsque... 2 millions d'abeilles qui étaient transportées par un semi-remorque, puisque là-bas, c'est comme ça qu'ils font la transhumance des ruches. Et que, bon, le mec a eu un petit accident. Et donc, il a quand même été, évidemment, piqué des centaines et des centaines de fois. Et puis, bon, il y a toute une zone qui a été, difficilement accessible, on va dire. Parce que 2 millions d'abeilles, ça commence à faire du monde.
On s'est chiffré, oui.
Allez, je suis sûr que Monsieur Kogan va en parler tout à l'heure, mais juste, à force d'oublier l'essentiel pour l'urgent, on oublie l'urgence de l'essentiel. Merci Edgar.
Edgar Morin.
Évidemment, évidemment. Allez, un petit titre pour Madame Henriette, que j'avais entendu rouspéter fort loin quand c'est arrivé. Alors je ne sais pas quel était son... Voilà. Roland Garros 2026, j'imagine que vous regardez la baballe donc, Madame Henriette.
Non, j'en ai strictement rien à cirer.
Ah bon, mais pourtant, Adolfo Daniel Valero, c'est comme ça qu'on dit en espagnol quand il y a un J.
Alors,
c'est
écrit.
Probablement pas.
VA2LJO.
C'est...
Valero.
Valero.
Ah, merci, Monsieur Kogan. Sanctionné pour des propos sexistes envers l'arbitre après sa défaite face à Moïse Kouamé.
Oui, il a perdu parce que l'arbitre était trop sexy.
Eh ben oui, attendez, ça trouble. Après, on met des balles dehors, hein, ça c'est sûr.
Oui, il a expliqué que pour certains matchs importants, enfin que pour les matchs importants, il valait mieux que ça soit un homme quand même.
Bah, c'est plus sérieux.
Parce que bon, bah oui, c'est quand il y a de l'enjeu, quand c'est sérieux, il faut un homme. Soyons quand même réalistes.
Un idiot.
Ah bah, il s'en trouve partout, mon bon monsieur.
Du cannabis. Du cannabis caché dans des meubles en kit, démantèlement d'un étonnant trafic entre la Californie et Paris.
Ah, pensez-moi à retourner à Ikea.
Mais j'adore. Alors, je sais pas si les manuels pour faire son pétard sont pareils que les manuels pour monter le meuble, mais bon, je sais pas.
Est-ce qu'il y a des clés à laine pour visser les tarpés ?
Une excellente méthode de prévention, au demeurant.
Tout à fait.
Dans le San Antonio Express News, on apprend qu'un Texan... Alors là, déjà, ça part mal. Vous voyez, c'est comme quand vous avez ivre, virgule. Si vous avez texan, virgule, bon, bah, c'est...
Dans le San Antonio Express, machin truc, on n'apprend rien.
Si, on apprend que le mec a été arrêté. Parce que donc, il avait mis intentionnellement son Cybertruck, donc l'espèce de machin tout moche, là, sorti par Tesla, dans un lac pour tester le mode immersion. Alors, il n'avait pas lu la notice parce que le mode immersion, c'est juste que vous pouvez passer dans des grandes flaques d'eau, hein, mais pas dans des lacs, en fait.
Elle était beaucoup trop grosse, cette flaque.
Ouais, voilà, la flaque était trop grosse. Donc, évidemment, il est parti vite fait de sa bagnole, mais bon, elle est restée dedans et c'est interdit, hein, de mettre sa voiture dans les lacs. Voilà.
Ah, ouais.
Ah, mais il y a du niveau, hein, mais bon, Texas. Allez, celui-là, je suis sûr que M. Kogan l'a vu passer.
Comme quoi, c'est pas forcément les meilleurs qui sont les plus riches.
Non. Affaire Xavier Dupont de Ligonnès. M6 reconnaît s'être fait rouler dans la farine par un faux prêtre.
Tout à fait.
Faux prêtre, vrai mythomane.
Ah oui, bah écoutez, c'est comme ça. Alors déjà qu'on a vu qu'il y avait des faux prêtres dans les calendriers vendus au Vatican.
Oh,
alors
arrêtez,
là, vraiment,
quel
c'est...
scandale.
Arrêtez,
que se passe-t-il ? Mini cochon et organes imprimés. L'étrange quête d'immortalité de Vladimir Poutine.
Quoi ?
Alors, les...
Ah bah, ils font tout un tas d'expériences étranges, ce qui peut-être pourrait expliquer ceci ou cela.
Mais j'espère qu'on ne les fait pas sur les mini-cochons, les expériences étranges.
Je sais pas.
Bah ouais.
Moi, j'aime bien les mini-saucissons, mais moi, les mini-cochons, je sais pas. Est-ce qu'il faut un mini-cochon pour faire un mini-saucisson ?
Mais ça va pas, non.
Mais enfin...
Allez, et je finis cette revue presque de presse avec ce titre qui va, je pense, nous faire tout l'été parce que c'est une question essentielle et cruciale. Et je sens que Madame Ariette est prête à y répondre. Par quoi remplacer le grand escalier de la dune du Pilat ? Parce qu'il est vieux, il commence à se... Alors.
Bah, par un escalier tout neuf ?
Je suis
assez basique. Hein.
Par du sable, diraient certains.
Par des pieds.
Oui, oui aussi, oui.
Ça fera moins de monde en haut. Hein. Elle sera moins piétinée.
Je sais pas.
Si elle est moins accessible.
Voilà.
Non, je dis ça, c'est parce que j'ai un souvenir récent et cuisant de la dune du Pilat qui ressemblait à cette célèbre photo de l'Everest où vous aviez les gens en file indienne. Ben là, c'était pareil, sauf qu'en plus, les gens... statistiquement, c'était que des Bordelais, donc on n'est pas monté. Hein.
Ah, ça vous a fait peur, ça, Madame Ariette ?
Ah bah, une file de Bordelais, oui, évidemment.
Allez, la petite rubrique culturelle grâce à France Culture, justement. Là, je ne sais même pas comment ça se prononce, excusez-moi. Ptarmoscopie.
Quoi ?
Qu'est-ce que c'est la ptarmoscopie ?
Ah bah là, personne pourra te finir.
Je l'ai plutôt bien fait. La ptarmoscopie. Ça existe depuis très longtemps.
Il y a beaucoup trop de consonnes.
On en retrouve des traces dans l'Odyssée d'Homère.
Oula.
Eh bien, c'est la divination par les éternuements.
La divination. Ah oui, il y a...
Et oui. Et il y a une célèbre scène où Télémaque éternue et donc ça annonce le retour d'Ulysse.
Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu une émission là-dessus sur France Culture.
Exactement.
Et je l'ai entendue.
Et vous n'avez pas retenu que c'était la pnarmoscopie?
Non. Mais j'étais ravie de savoir que lorsqu'on éternuait, alors il y avait des interprètes des éternuements au Moyen-Âge où il y avait quand même tout un tas de loulous plus ou moins sérieux, on va dire. Et donc, notamment pour faire des affaires, alors si vous éternuiez deux fois avant un marché, avant de conclure un marché, ça allait fonctionner. Si c'était trois fois, ça allait pas marcher. Mais si c'était en lune descendante ou je sais pas quoi, en fait, c'était le contraire. Enfin bon, c'était... Les gens avaient du temps quand même au Moyen-Âge. Hein.
La divination, c'est toujours fascinant. Hein.
C'est vrai.
Oui.
Allez, je vais essayer de faire un peu de divination. Est-ce que Monsieur Kogan, le 24 juin, ira voir ce magnifique film qui sort? J'ai été subjugué par l'affiche. Iga, la mouche vengeresse. Par Monsieur Rajamouli. Alors, j'attends vivement votre chronique, Monsieur Kogan.
C'est très prometteur.
Écoutez, je ne suis pas allé voir le film encore sur la poule, alors...
peut-être faut faire un combo.
La mouche vengeresse.
Oui, Iga, ça s'écrit 2-E-G-A.
G-A.
Ouais, E-G-A, ouais. Mais allez voir l'affiche, elle est magnifique, hein, on prend peur.
C'est un film indien.
Ouais. De 2012.
De 2026.
Il est refait parce qu'il est crédité en 2012.
C'est vrai
en 2012.
C'est une ressortie oh non.
C'est une ressortie, c'est un film de 2012.
Il avait trop bien marché.
Ouais. Il cherche à se venger de son assassin.
Ouais.
Je pose ça là.
Moi, j'ai pas trouvé la même chose.
Y a peut-être un remake.
Voilà, il est peut-être remasterisé. Et vous avez peut-être des scènes, des chorégraphies de mouches en plus.
Qui chantent.
Mais bien sûr.
Donc voilà, 2h14, ça va être... Là, ça, c'est le film... Ah ouais, mais ouais, c'est un film de 2012. Ouais.
2012.
Enfin, il arrive en France, enfin.
Ça sort en France, quand même.
Enfin, il arrive en France.
Voilà.
Alors, je vais vous parler rapidement d'un film récent, parce que je sais que M. Kogan vous abreuvera d'autres films beaucoup plus passionnants, mais moi, c'est juste par rapport à quelque chose que j'ai lu. Mon grand frère et moi, de Ryota Nakano, réalisateur de l'excellent La Famille Asada. Je recommande ce film.
Oui.
Alors, mon grand frère et moi, ça commence. Nous avons Rico qui est marié, mère de deux enfants qui ont l'âge d'aller au collège, visiblement. Elle reçoit un coup de téléphone et son frère qu'elle n'a pas vu depuis des années, eh ben, elle apprend qu'il est décédé. Et c'est la police qui l'appelle. Donc évidemment, vous sentez que ça... Alors, je lis dans VO, le magazine des cinémas indépendants, ce qui suit. Mon grand frère et moi s'impose comme une véritable comédie traversée d'une légèreté toute japonaise entre pudeur et fou rire. Un feel-good movie pour renouer avec l'essentiel. Alors là, je me dis que j'ai vraiment raté les cours d'anglais quand j'étais au collège et au lycée, parce qu'un feel-good movie, c'est vraiment pas le film que j'ai vu. Alors c'est un film intéressant et tout, mais alors un feel-good movie, je sais pas, à VO, faudrait peut-être qu'ils aillent voir les films avant d'en faire la promotion.
Oui, parce que c'est un film qui pour le coup est vraiment très différent de La Famille Asada, et c'est un film qui traite à peu près exclusivement de la mort et du deuil.
Voilà. Alors les fous rires, je sais pas où ils étaient.
Et des traumatismes familiaux.
Alors, il y a deux trois trucs rigolos, on va pas dire. Il y a un peu de légèreté effectivement, mais enfin c'est quand même trash. Alors je sais pas s'il y a des spécialistes du Japon autour de nous, mais à un moment il y a une scène, donc ils ont incinéré donc le frère. Et donc la famille, enfin les quelques membres de la famille qui sont là, sont invités à aller prendre avec des baguettes les ossements du corps et à les mettre dans l'urne.
Oui, c'est pas étonnant, mais ça se fait pas partout au Japon.
D'accord. Ouais. Je dois avouer que quand on voit ça, on se dit effectivement ils n'ont pas tout à fait la même approche que nous.
Il y a un véritable ordre de préséance d'ailleurs dans cette scène, puisque c'est effectivement la personne qui mène le deuil qui commence, qui met le premier os dans l'urne.
Et par contre, il y a quelque chose dont on avait déjà parlé dans cette émission, qui évidemment, nous, occidentaux, est vraiment très différent. C'est que donc son frère, ce frère disparu, mort, avait été marié. Et donc, eh ben, en fait, il a divorcé. Et quand il a divorcé, eh bien, la mère est partie avec la fille et lui a gardé le garçon. Mais effectivement, dans ce cas-là, la famille est vraiment n'existe plus, en fait. Sur le livret de famille, il n'a plus qu'un fils et elle n'a plus qu'une fille, mais il n'y a plus aucun contact, il n'y a plus aucun... C'est vraiment très étrange. Mais on en avait déjà parlé, puisque évidemment, quand ce sont des Occidentaux ou des Français qui épousent une Japonaise et qu'il y a divorce, la rupture est vraiment parfois très, très douloureuse. Parce qu'il n'y a plus aucun contact possible avec la famille. Voilà, c'était. Bon, je vous conseille d'aller voir Mon grand frère et moi, mais.
On se marre bien dans cette émission.
Mais Feel Good Movie, non, c'est vraiment pas l'épithète que je mettrais à ce film.
Oui, ou alors après.
Ou après, si vous avez vraiment une vie de merde horrible, peut-être vous trouvez ça génial ce qui lui arrive. Bon, allez, Madame Ginette.
Non, ou après, là, peut-être, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais.
Vous n'avez pas vu le film ?
Non,
ou vous n'avez
pas
vu
ça.
La chronique ?
Peut-être la leçon de piano, c'est une comédie musicale enchantée. Enfin, on peut.
Ah, bah oui !
Voilà.
Ah, bah oui !
Ouais, d'accord.
Allez,
donc,
Madame Ginette.
Le tombeau des Lucioles, un conte féerique pour les tout petits. Enfin, bon, voilà.
Oh, waouh ! Vous voulez en faire quoi des tout petits ?
Ah bah
après le bout de plus, c'est sûr, hein.
Et La Mouche Vengeresse, un film métaphysique.
Madame Ginette est sur les starting blocks, là.
Mais c'est à elle dont je m'ennuie bien.
Oui. Non, je voulais quand même changer d'ambiance, parce que là, comment dire, c'est pas que vous avez plombé le truc, mais presque.
Moi, je plombe
et
personne.
Effectivement. Figurez-vous que tous les ans, depuis pas très longtemps, puisque c'est un classement Uber... Mais tous les ans, ce classement Uber paraît. Et c'est un classement des objets les plus inattendus, insolites, insérés ici, adjectif de votre choix, retrouvés dans les voitures.
Ah, je pensais à autre chose, là, d'un coup, c'était très bizarre.
Mais non. Alors, qu'est-ce qui pourrait être insolite dans une
Alors,
voiture?
Uber, ils font les voitures, ils font pas ce que vous croyez, hein. Visiblement.
Alors,
donc, à votre avis, quels sont les objets bizarres qui ont été retrouvés, oubliés? Et je précise vraiment oubliés, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui ont planqué ça là en mode « je vais m'en débarrasser ». Non, non, parce qu'après, ils ont appelé pour dire « j'ai oublié ça ». Donc, à votre avis, quels sont les plus comment ?
Un serpent de compagnie.
Non, dans le genre, il y a eu un chien, mais après, voilà, avec la personne qui a appelé, j'aurais pas oublié mon chien, bah si. Mais là, on passe maintenant aux objets, ça c'était pour la page animaux et propriétaires.
Ah oui, pardon, les objets.
Non, passons aux objets.
Alors, je dirais un taille-œil.
Non.
Un moule à gaufre.
C'est foutu, je pense tellement à ce que je viens de dire que c'est foutu, je peux plus participer.
Mais on mettra des bips, monsieur Kogan.
On va rester correct.
C'est ça. Alors, évidemment, les plus oubliés en nombre, ça va être les lunettes, les portefeuilles.
Ah, j'ai cru que vous alliez continuer avec ce que disait monsieur Kogan, vous m'avez fait peur.
Non, pas du tout. Non, mais je pense qu'on l'a perdu là, de toute façon. Oh, parce que tout ce que je vais dire, il va s'imaginer des trucs pas corrects. Voilà, c'est ça.
Donc oui, lunettes, portefeuille, logique. Trousseau de clés, on est d'accord, ça c'est normal.
Oui, c'est un classique. Mais par exemple, 15 claviers d'ordinateur. Mais pour une seule course.
C'est-à-dire
que la personne qui trimballait avec 15 claviers d'ordinateur.
D'accord, très bien. Je ne juge pas.
Un sapin.
De quelle taille? Parce que c'était une grosse voiture Uber alors quand même.
Ah, ça j'ai pas.
D'accord.
Un barbecue.
Ah. Une belle-mère. Non,
un scénario de film. Je pense qu'il y a un scénariste qui a dû avoir chaud et transpirer bien fort.
Ah ben là, bravo.
Une boîte de laxatifs.
Ah oui.
Ah là, on se rapproche.
Un billet de $100 à l'effigie de Donald Trump.
Ah non.
Mais non, pourquoi?
Donc un faux billet, entre guillemets, hein, c'est-à-dire un billet, voilà.
Peut-être plus pour très longtemps.
De la monnaie de singe.
C'est pas gentil pour les singes.
C'est vrai, c'est les animaux que je respecte peut-être le plus.
Et le top du top, une prothèse de jambe.
Ah oui. Parfait.
J'aurais pas laissé ma jambe dans votre voiture.
La seule chose que j'ai pas réussi à déterminer, c'est s'il s'agissait de la jambe de la personne qui a fait la course ou pas.
Ah oui.
C'est-à-dire, admettons, vous dites à quelqu'un après un accident, bah, passe chez le prothésiste et ramène-moi ma prothèse de jambe.
La dernière Oups. Fois que quelqu'un a laissé une prothèse de jambe dans un véhicule, c'était un pilote anglais célèbre qui a laissé sa prothèse de jambe dans son avion.
Sa propre prothèse, tout à fait.
Absolument.
Voilà, donc on en trouve des choses hein, dans les Uber, évidemment. Alors, les peluches, les clés, les tout ce que vous voulez. Mais voilà, je tiens quand même à dire un barbecue et une prothèse de jambe. Je m'en suis pas remise. Hein.
Pas mal, pas mal.
Mais pas dans le même. C'était pas un mec qui voulait faire un barbecue.
Non, non, c'est un classement. C'est un classement de ce qu'on retrouve le plus et de ce qu'on retrouve pas le plus, mais ma foi, d'inattendu.
Ah, pour être
et je voulais rester aux États-Unis. Je suis très États-Unis, là, quand même, un petit peu. Vous savez que les États-Unis sont un pays de une mode chasse l'autre, y compris au niveau culinaire. Enfin, alimentaire, je ne sais pas jusqu'à culinaire non plus. Et quelle est la nouvelle mode ?
Alimentaire.
Aux États-Unis.
Ben, c'est les Babybel hyper protéinés.
Ils ont décidé de manger de la vraie nourriture ?
Alors, ça pourrait être de la vraie nourriture si ce n'était pas vendu en boîte de conserve, parce que là, vraiment, je suis choquée.
Oh mon Dieu ! Non, parce que, alors, on m'avait parlé, mais il y a très, 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 très longtemps, des cuisses de poulet en bocal, donc flottant dans l'eau.
Non, mais elle est sur de la boîte de conserve, là, Madame Ariette.
Donc là, sur la boîte...
Mais ce que vous dites est horrible.
Des huîtres.
Non, pas des huîtres. C'est végétarien.
C'est végétarien, c'est en conserve et ça ne devrait pas l'être. On est bien d'accord.
Bah, moi, je ne l'aurais jamais mis en conserve.
Des chabalots ?
Non. C'est pas sucré.
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en conserve et ça n'a aucun sens ?
Eh ben.
Non, alors là.
Des cacahuètes ?
Non, de la choucroute, mais que le chou.
Bah, je vois pas ce qui vous choque là, je comprends pas.
Mais c'est dégoûtant, en boîte de conserve, pH 3 le truc. Ah non, c'est horrible.
Ah, ça va vous manger. C'est ce qui vous angoisse, c'est pas que ça soit en conserve, c'est que ça soit dans du métal.
Mais oui.
Mais il doit y avoir du plastique dedans.
Bah, William Saurin serait ruiné si ça n'existait pas.
Vous voulez vraiment que je lui dise ce que j'en pense ou...
Et donc là, les Américains sont fous de choucroute.
Ah oui, ils sont fous de choucroute parce que c'est hyper fort, c'est hyper nourrissant, c'est un super aliment.
Ben oui, c'est fermenté.
On peut en manger à n'importe quel moment. Comme n'importe
alors
quoi.
Peut-être, donc, n'importe... peut-être pas en premier rendez-vous quand même.
Alors, figurez-vous que Sherry Hines, dont le nom ne vous dit peut-être rien, mais qui est l'épouse de Robert Kennedy Jr., vous savez, le zinzin. Oh,
la pauvre.
Il explique que c'est formidable parce que son mari, à 6h30 le matin, il se fait un steak, il mange de la choucroute avec, et comme ça, bim, il va super bien toute la journée.
Ah oui, super bien. C'est pas le mec qui s'est fait mordre par des serpents l'autre jour.
Je pense que les serpents sont morts tellement ce mec est venimeux, mais...
Voilà. Oui, cette info est vraie, Madame Henriette, je vous jure.
Ah non, mais je ne sais pas quels sont les objectifs des serpents aux États-Unis.
Et elle a même expliqué que quand ils vont au restaurant ensemble, ils ont par précaution une portion de choucroute dans le sac à main, au cas où ils ont encore faim après.
Ah, ça,
cette phrase existe.
Cette phrase, c'est d'accord, on a toujours une portion de choucroute sur nous.
Ce, okay. Ce qui fait toujours plaisir quand vous êtes dans un restaurant que vous sortez votre boîte de conserve de choucroute. Non, excusez-moi, c'était sympa ce que vous avez cuisiné, mais bon, quand même, ça manquait de choucroute.
Puis c'est intéressant, ça rajoute 1,5 kg dans le sac à main.
Et puis, il donne des preuves que c'est hyper bon. La preuve, c'est que c'est fermenté, comme le kimchi, le miso, le kéfir.
Oui. Le fromage.
C'est fermenté, donc c'est parfait.
Enfin, le vrai fromage.
C'est très bon pour la santé.
Non, mais c'est vrai que c'est très bon et c'est bon pour la santé, mais bon, quand même.
Oui, c'est bon pour la santé, mais enfin, déjà avec modération, comme beaucoup de reste, parce que je pense que sinon vous le regrettez.
Ouais, et puis déjà, le mettre effectivement en boîte de conserve.
Et puis dans des boîtes en métal, quoi. Non, pitié, non. Non, non, non.
Alors, en général, on trouve ça dans des bocaux en verre.
Ça, c'est très bien.
Voilà, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire en Europe.
Et ça.
Eh bien,
et je finirai toujours aux États-Unis par la Floride, cet état de délicieux zinzin, on ne va pas se mentir. C'est l'histoire d'une femme qui a 36 ans, qui est en voiture, pim, paf, pouf, qui est arrêtée Parce que intersection ou je ne sais. Et là, un policier arrive. Oui, vous êtes en train d'écrire un SMS. Je vous vois sur votre main droite. Vous êtes en train d'écrire un SMS. Et là, la dame lui dit, ben, je ne crois pas, non. Et elle a eu un bon moyen de prouver que c'était pas le cas.
Elle n'avait pas de main.
Exactement, elle est amputée du bras droit, de l'avant-bras droit.
Ah, c'est super. Magnifique.
Donc elle n'écrivait pas avec sa main droite.
Non, puis elle n'avait pas de téléphone et puis elle n'est certainement pas. Et donc il a commencé à lui dire « Si, si, je vous ai vu !»« Non, regardez mon bras. »« Oui, bah alors c'était de la main gauche. »« Ah oui, je tenais le volant avec quoi alors, exactement ?»
C'est magnifique. Ne changez rien.
Voilà.
Voilà.
Il lui a quand même mis une amende de 116$ qu'elle a fait tomber, bien sûr, assez facilement en disant « Coucou, regardez mon bras droit. »« Bah ouais, je n'en ai pas. »
Ah, parce qu'il avait marqué sur le procès-verbal, elle écrivait un SMS du bras droit qu'elle n'a pas.
Oui, il est arrivé avec, et puis il a commencé à lui faire « si, si, mais si, si, mais si, si ».
Impératrice. Voilà. Ok.
Oh.
Oui,
oh,
pardon.
Vous l'avez vraiment fait, cette blague?
Absolument, Madame Ginette. Non, mais c'est la Floride, on peut tout se permettre.
C'est-à-dire,
c'est ça.
Il y a de moins en moins de limites. On va pas se mentir.
Apparemment.
Ben, ça fait plusieurs années que nous sommes de toute manière tombés dans un univers parallèle, donc...
Où la notion...
Un multivers.
Exactement, dans lequel les détroits sont fermés, ouverts, fermés, ouverts, fermés, fermés, ouverts, ouverts.
Les détroits de Schrödinger.
C'est ça, et où la... Sans chatière.
Exactement.
Sans chatière.
Et où la notion de décence n'est plus qu'un concept vide.
Eh bien, oui, Madame Henriette, puisque vous êtes dans la veine poétique, c'est à vous dont je m'ennuie bien.
Alors, ça va pas être poétique du tout. Je vous amène en Corée du Sud et figurez-vous qu'il leur est arrivé une aventure.
Un coup d'État de... Encore un coup d'État
beaucoup... Non. Ah bon. Ça, ben non, pas tout le temps.
Ah bon,
pas tout le temps.
Bon, je sais pas, il savait rire pourtant.
Oui, ben non, c'est un peu vintage quand même. Non, il leur est arrivé une aventure que beaucoup de pays européens leur enviraient. Ils avaient des élections locales mercredi et bien la tuile, il y a eu une pénurie de bulletins de vote, notamment à Séoul.
Parce que les gens voulaient voter ?
Et parce qu'en fait, la participation a été très élevée. Alors, ils n'ont d'élections locales que depuis 1995, donc pas un recul de fou non plus. Mais j'ai envie de vous dire, ils n'ont des élections que depuis pas très longtemps non plus. Hein. Bon, voilà.
Vous voulez dire que nous, chez nous, ça fait trop longtemps, c'est pour ça que les gens ne vont plus voter. C'est
non,
ouais, mais c'est bon, il y a encore une élection.
Je veux dire que quand on parle d'une participation importante, on ne remonte que sur les 30 dernières années.
Oui, mais enfin, quand même.
Et ils ont été obligés d'arrêter l'élection. De demander aux électeurs d'attendre et...
Excusez-nous, on va imprimer des bulletins.
il a fallu attendre tard dans la soirée pour réapprovisionner les bureaux de vote en bulletins.
Ah ouais.
Alors évidemment, dans un pays où le complotisme se porte extrêmement bien quand même, que s'est-il passé? Eh bien, le parti d'opposition... À crier au complot et au tripotage, au bidouillage d'urnes. Bon, de fait, ils ont gagné la mairie de Séoul, où on les disait largement perdants. Ils l'ont gagné de justesse, mais voilà, ils l'ont malgré tout conservé. La commission, vous savez, ils ont comme nous une commission nationale des élections. Mmh. Bon, s'est penchée sur la question. Ils ne réorganiseront pas, enfin, ils ne revoteront pas. Hein, les bulletins sont arrivés en retard, mais l'élection est considérée comme tout à fait valide. Voilà.
C'est vrai que c'est rigolo, ça laisse rêveur.
Eh bien oui, c'est pas souvent.
Moi,
hein.
Je ne veux même pas savoir combien, à chaque élection, on jette de bulletins.
Mais écoutez, là, ils étaient en rupture de stock.
Oui, allez-y, Madame Henriette,
allez,
je vous en prie.
On revient en Europe. Je vous amène à Barcelone. C'est un article du Monde. Oui, l'article précédent, pardon, c'était Yonhap, l'agence de presse coréenne. Donc, un article du Monde qui nous raconte que l'hégémonie des platanes à Barcelone, c'est terminé. Fin de règne pour les platanes. En 2010, figurez-vous que les platanes représentaient encore 30% des arbres de Barcelone. Et donc, au fur et à mesure, ils perdent un petit peu de leur place. Et puis là, le plan est annoncé, la mairie l'a annoncé, on va remplacer les platanes par d'autres essences. Alors, pour une raison, la première raison est très simple, hein, c'est pour répondre à une demande des habitants, puisque les platanes produisent des espèces de poils extrêmement irritants et qui déclenchent des allergies. Et puis, l'autre raison, eh bien, c'est que avoir une essence prédominante, ce n'est pas une très bonne idée en matière de biodiversité et en matière d'adaptation au changement climatique, parce que cette essence, effectivement, pourrait être attaquée par des prédateurs, une maladie. Et donc, en peu de temps, on pourrait perdre une grande partie des arbres de la ville. Donc voilà, le plan est commencé. À terme, on prévoit que les platanes ne représentent plus qu'au maximum 15% de l'ensemble des arbres. Et donc, voilà. Alors, ce sera
pas
forcément...
Et alors, ils ont opté pour quoi ? À la place du platane ?
Oh ben, ils vont poursuivre avec d'autres arbres. Alors, des arbres que nous, qu'on ne plante pas tellement, des sophoras, des tipuanas, des poiriers de Chine, des micocouliers qui sont un peu plus répandus chez nous. Mais en fait, ce qu'a indiqué la mairie, c'est que non, bien sûr, on n'allait pas couper tous les platanes là tout de suite. En fait, ils vont remplacer au fur et à mesure que les arbres meurent ou bien au fur et à mesure qu'ils plantent de nouveaux arbres.
Non, parce que le platane, par contre, pour l'ombre, c'est pas mal quand même en général. C'est costaud, quoi.
Eh bien, c'était effectivement le rôle de ces arbres dans le.
Ça y en a perdu, oui. Madame Henriette. Je
non,
sais pas où elle est.
En fait, c'est mon ordinateur que je suis en train de perdre, et ça m'ennuie un petit peu.
Non, non, ne perdez pas votre ordinateur. Ne le laissez pas dans votre voiture Uber. Gardez-le avec vous.
Alors
oui, vous avez encore une autre information,
oui,
à nous divulguer.
Voulez-vous que je vous amène en Ukraine ? Mais pour un truc
ça
mignon.
Ça dépend dans quel coin. Ah oui, d'accord, parce que sinon j'allais dire...
Pour un truc mignon, voilà. Mmh. Alors c'est, dès que je retrouve le nom, dès que mon ordinateur veut bien me rendre les
commandes.
Voilà.
D'accord.
Donc, il s'agit d'une mignonne petite histoire. C'est un biologiste dans un tout petit village ukrainien qui a eu l'idée de planter une caméra en permanence, donc ça fait depuis 2023, en face d'un nid de cigogne. Et donc, les Ukrainiens, alors au début, seulement quelques passionnés hein, se sont abonnés à la chaîne. Mmh. Et les Ukrainiens, en fait, se sont passionnés pour ces animaux et donc suivent leurs aventures. Et ce sont de vraies aventures, puisque plusieurs couples, et même des couples recomposés, ont occupé ce nid durant les 3 dernières années, avec de grandes réussites en matière de
reproduction.
De reproduction, c'est ça, puisqu'ils ont amené une grande partie de leurs petits à l'âge adulte. Alors, les abonnés de la chaîne ont vécu des aventures extraordinaires avec ces cigognes. À un moment donné, le mâle fondateur, en fait, a été évincé par un mâle plus jeune qui a été en difficulté pour élever ses petits et donc, à un moment donné, avait éjecté un petit du nid, petit qui a pu être sauvé sous les vivats de la foule, comme bien vous vous en doutez.
Mais Madame Henriette, vous y avez cru ? Non, mais c'est scénarisé tout ça.
Mais non.
Mais bien sûr que si.
Ça est parfaitement sérieux. Alors, je ne m'aventurerai pas à prononcer le nom de... Parce que toutes ces cigognes ont un nom, évidemment. Certains sont compliqués à prononcer. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de consonnes. Mais vous saurez que là, il y a une femelle donc qui est finalement la femelle historique de ce nid. C'est Odarka. Elle a changé plusieurs fois de mâle. Elle est un peu, voilà, elle est un petit peu
une cigogne volage.
Oui, un petit peu. C'est et puis elle a eu des soucis cette année puisque son nid était squatté par deux autres cigognes qu'elle a éjectées, hein, parce qu'elle n'est, elle n'est pas commode au Darka.
Et puis son contrat avec L'Oréal n'a pas été reconduit, donc bon.
Possible. Il y a 67 000 abonnés, et puis pour le sauvetage de la jeune cigogne dont je vous parlais, il y a eu 2,5 millions de vues, hein, parce que voilà.
Alors, et bientôt 67 000 et un abonné grâce à Madame
au-delà
Henriette.
Au-delà de ça, le succès évidemment de cette... donc c'est une caméra qui est... c'est une vidéo YouTube en direct, là, hein, vous voyez 24 heures sur 24 ce qui se passe. Pourquoi en Ukraine, ça, ce succès-là ? Bah, bien évidemment, parce que c'est, une... Alors, c'est à la fois une allégorie de la lutte pour la survie, hein, de ces cigognes. Et donc, voilà, c'est une allégorie de ce que vit le pays. Et puis, c'est aussi un moment de détente et puis d'espoir, voilà. De voir ces jeunes cigognes élevées tous les ans et donc les parents revenir également tous les ans dans le nid.
D'accord. Et on ne les voit pas transporter des bébés pour les amener ici à droite et à gauche.
Alors, elles auraient du mal parce que ce n'est pas ça qui va redresser la natalité de ce pays. Ce n'est pas ça qui va réarmer démographiquement.
Oh là là, que c'est vilain pour dire pour l'Ukraine, Madame Henriette.
Non, je pensais à la France, justement.
Ah, pardon.
Ce n'est pas ça qui va réarmer démographiquement la France, puisque au maximum, ces cigognes ont fait 5 petits. Voilà.
Ah, ouais, ouais.
Ah oui, bah, c'est pas des chats, hein.
D'accord. Très bien, Madame Henriette. En avez-vous fini ?
Je peux encore vous raconter
non,
votre bêtise.
Non, on n'a plus le temps. Allez,
voilà.
Monsieur Kogan, c'est
à
vous.
Je le savais.
Ok. Bah vous me prenez un petit peu comme ça au dépourvu.
Au débeauté, Monsieur Kogan.
Alors.
Pour meubler, si vous voulez, Monsieur Edmond va vous faire le cri de la cigogne.
Non. Je change d'ambiance tout de suite. Les gardiens de la Révolution nous arrêtaient pour un oui ou pour un non. J'ai été arrêté parce que j'avais des chaussettes rouges et que les chaussettes rouges allaient mettre l'islam en danger. C'est une citation de Marjane Satrapi. Marjane Satrapi, je vais en parler un tout petit peu. Mais d'abord, évidemment, bonsoir mes chers compatriotes. Il est de coutume que je rende hommage aux disparus du monde artistique et intellectuel en fin de chronique. Mais voilà, deux grands noms qui symbolisent à eux seuls le meilleur de l'humanité résonnent à nos oreilles depuis aujourd'hui, et un petit peu plus pour l'un d'entre eux, synonyme de lumière face à l'obscurantisme. Edgar Morin, né David Salomon Naoum, lieutenant dans la Résistance, anthropologue et philosophe, initiateur de la pensée complexe, critique de la politique israélienne et ami des peuples, s'est éteint à presque 40 ans. 104 ans. 104 ans. 104 ans, c'est beaucoup, mais concernant Edgar Morin, on aurait voulu que ça dure un peu plus. Marjane Satrapi, elle, est morte de chagrin à 56 ans. Là, dire que c'est beaucoup trop peu, que c'est beaucoup, beaucoup trop triste, c'est être en dessous de la vérité. Alors, elle était connue pour sa BD Persepolis, elle était membre de l'Académie des Arts, c'était une figure irano-française de la lutte contre l'oppression religieuse. Voilà, ça ne se dit pas beaucoup de nos jours, morte de chagrin. D'avoir perdu l'amour de sa vie. Et je ne vais pas vous dire ce que j'ai ressenti et ce que la personne qui était en face de moi a ressenti au moment où j'ai lu cette nouvelle tout à l'heure sur le téléphone. Mais c'était un moment très émouvant. Voilà. Alors merci à ces deux grands personnages humains et bien plus que cela. Non, on ne ferait pas beaucoup plus, c'est déjà bien assez, je crois. Je vous ai perdu ou vous êtes encore là ?
Pas du tout, nous vous écoutons.
Non, c'était très, très joli, Monsieur Kogan. Merci pour cette très belle introduction, même si effectivement ça refroidit un peu tout le monde, mais de temps en temps c'est nécessaire.
Alors je vais essayer de réchauffer un peu les cœurs. Décidément, aujourd'hui, voilà, je savais que j'allais être sentencieux, mais bon, un petit peu de cinéma et ça va passer, quoique. La semaine dernière, je vous parlais d'un petit film espagnol super et d'une super production américaine plutôt bof-bof, hein, on ne va pas se mentir. Alors là, ben, c'est un petit film américain, voilà. Le Virtuose, Tuner en anglais. Voilà, alors l'auteur d'un doc sur Navalny, hein, réalise donc là son deuxième long métrage de fiction. Et donc on suit Leo Woodall, qu'on a vu dans Nuremberg et bientôt dans The Hunt for Gollum, en jeune ex-virtuose du piano, accordeur comme son maître qui radote tout le début du film, qui est incarné par Dustin Hoffman, voilà, en donc Harry. Ah, et donc, le jeune personnage, lui, est atteint d'hyperacousie. Alors, voilà, on comprend assez vite ce qui va se passer, puisque c'est une compétence bien pratique pour craquer les coffres-forts. Eh oui. Alors, s'ensuit un bon petit thriller. Finalement, sans excès, mais sans grand moment non plus. Hein. Voilà, mais c'est sympa à regarder. Et notons qu'on croise Herbie Hancock. Oui, oui. Le musicien, le vrai. Il y a beaucoup de musique dans ce film, évidemment. Beaucoup, beaucoup. Et Herbie Hancock en Herbie Hancock. C'est là où c'est amusant. Voilà. Mais ce n'est pas le grand film de la semaine. Vous vous doutez du film dont je vais parler aujourd'hui. Voilà, le film de la semaine est sans doute de bien plus que la semaine. C'est La bataille de Gaulle, l'âge de fer. Premier opus sur deux. Dans Antonin Baudry, si je ne m'abuse. Absolument. Donc, voilà, le réalisateur remarqué de Quai d'Orsay et du Chant du Loup, et qui a mobilisé un énorme budget, je crois que c'est 74 millions d'euros, hein, et une palette d'acteurs haut en couleur pour retracer, non pas tant la vie du général de Gaulle, mais plutôt la naissance de la France libre, ou comment des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, se sont soulevés contre l'oppression et ont réalisé l'impensable. Alors on est saisi dès le début, et reconnaissons-le malgré quelques libertés avec l'histoire, mais qui servent le propos, par le sens stratégique, mais aussi par la quasi-folie de ce général, seul ou presque au début. Et c'est très très bien montré, c'est assez... assez jubilatoire d'ailleurs, la façon dont c'est amené, puis rejoint par une poignée d'aventuriers, de civils pour la plupart, et de pêcheurs bretons. La scène avec les pêcheurs bretons est excellente, voilà, je n'en dis pas plus. Le film repose sur deux trames narratives différentes, celle du général de Gaulle, avec face à Churchill, et donc, d'ailleurs, Simon Abkarian est époustouflant, tout comme Simon Russell Bill, donc en Churchill. Et puis, l'autre trame narrative, c'est celle du jeune Fernand, jeune lycéen, qui se révolte contre l'occupant à Paris. Alors, on croise tous les héros, Koenig, Leclerc, Moulin, mais aussi, on croise des salauds, hein, on ne va pas se mentir. Et le portrait fait par Darlan, qui est joué par Kassovitz, hein, est assez édifiant. Alors, on voit aussi à quel point les Américains ont tout fait pour nuire à De Gaulle, et ça, tout cela est parfaitement historique et documenté, et comment le courage, le sacrifice sont au cœur de la démarche des hommes de l'ombre. La bataille de Bir Hakeim est un des points forts du film. C'est quand même un truc qui est très rare en cinéma français, ce genre de scène-là. Et Magimel, donc, qui incarne Koenig, n'a jamais été aussi bon. D'ailleurs, ça faisait très longtemps que ce type-là n'avait pas été bon. Et bien là, il l'est. Un grand film, donc. Oui, un grand film, qui arrive à nous faire sourire aussi de temps en temps, tant De Gaulle est facétieux, et on le sait. Mais il y a quand même des scènes où on sourit franchement dans les échanges avec Churchill, par exemple. Et pour tout vous dire, je suis resté dans la salle à la fin, pendant plus de 15 minutes à discuter passionnément avec d'autres spectateurs qui étaient comme moi, émus par l'histoire. C'est à cela que sert la deuxième, évidemment, trame narrative, hein, celle du jeune résistant. Et puis bouleversé aussi, sans doute, par ce qu'on venait de voir. Tant cela résonnait très fortement aujourd'hui. Alors oui, Simon Abkarian était un choix surprenant. Mais je peux vous dire qu'on oublie très vite l'acteur derrière le personnage, et ça, c'est fort. Et donc, ce choix s'avère payant. Et puis, on découvre, ou presque, hein, Florian Le Sieur, donc dans le rôle de Fernand Bonnier de la Chapelle. Parfait, d'ailleurs. Alors, ce personnage beaucoup trop méconnu. Puis voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je pense que vous le sentez à ma voix. Je pourrais vous raconter chaque scène. Je pourrais défendre le film de 2h40 où on ne s'ennuie pas une seconde pendant à peu près 10 fois autant de temps. Voilà, j'attendais, je crois, ce film depuis 40 ans. Et même si j'ai un petit bémol, parce que le petit bémol, c'est que j'espère tout simplement que le deuxième opus qui sort dans un mois et qui s'appellera... voilà, le premier opus s'appelle « L'âge de fer ». Et donc, du coup, le deuxième opus, enfin, vous verrez, ça s'appelle « J'écris ton nom », évidemment, « J'écris ton nom ». Et donc, voilà, j'espère que ce sera à la hauteur du premier. Voilà, alors, le premier s'arrête en 1942, fin 42, avec un événement majeur, vous verrez, qui a saisi une partie de la salle, parce que je pense qu'il y a des gens qui avaient oublié cet épisode, ou qui n'en avaient peut-être pas forcément entendu parler, et pourtant il est majeur. Et puis j'espère donc que ce sera à la hauteur, parce que c'est évidemment la séquence qui mettra en lumière Moulin et Leclerc. Voilà. Alors, si je ne vous ai pas convaincu d'y aller, je n'ai qu'une seule chose à dire, allez-y quand même. Voilà. Donc non. Voilà, et ben écoutez, sinon...
Monsieur Kogan, je dois vous dire que moi, la bande-annonce ne m'avait absolument pas convaincu. Mais bon, je vous fais confiance, j'irai peut-être bien le voir, parce que c'est quand même une période qui m'intéresse grandement. Mais la bande-annonce est vraiment pas... donne pas envie,
en fait. Je pense que la bande-annonce, elle est compliquée, parce que, résumée en quelques instants, 2h40 de film extrêmement dense, c'est un petit peu difficile. Et puis, ils ont voulu... mettre en avant de l'action, alors qu'évidemment, une grande partie du film se passe dans le bureau de Churchill. Hein, donc, pourtant, on ne s'ennuie pas une seule seconde, je vous le promets.
Mais surtout que j'ai trouvé la bande-annonce trop démonstrative. Mais bon, c'est peut-être parce que c'est la bande-annonce et qu'ils ont voulu... voilà.
Oui. Voilà, alors écoutez, sinon, toute autre chose. Hein, je m'arrête sur De Gaulle, parce que sinon, je vais recevoir des injures de la part de mes camarades. Je dois dire que... l'ouvreuse était surprise quand je lui ai dit De Gaulle. Voilà, comme quoi, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut savoir être un petit peu nuancé et ouvert. Aujourd'hui, ça manque quand même.
Oui, c'est une sage recommandation, monsieur Kogan. Trop souvent oublié.
Absolument. Voilà, sinon, tout autre chose. Et donc, courage et bravo à Natasia Kinski. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire.
Tout à fait.
Mais en tout cas, zéro pointé à Wim Wenders. Voilà. Bon, sinon, sortons du cinéma. Et donc, que s'est-il passé le 8 juin 793 ?
793 ?
Absolument.
Oui, ça remonte un peu, là, quand même.
C'est trop tard pour Brunehilde. Oui. Donc, c'est pas elle.
Pourquoi ? Qu'est-ce que vous lui voulez à Brunehilde ?
Ah, quand même.
Et Berthaud Grandpied, c'est quand ?
C'est plus tard. Berthaud Grandpied, c'est plus tard.
Alors, c'est quelques années plus tard. C'est à peu près la même époque, mais c'est pas ça.
Alors, 793, est-ce que ça se passe en Europe ?
Oui.
Ouais, d'accord. Donc, on est à la fin des Mérovingiens, là, 793, même début des Carolingiens, je ne sais plus où on est.
Oui, mais ça ne se passe pas en Gaule.
Ah, bah alors vous ne nous aidez pas.
Puisque ça s'appelait encore la Gaule à cette époque.
Ah oui ?
Oui, on disait encore Gaule ou Francie, c'était un petit peu le voilà.
Oui, sachant que le sud n'était pas la Francie, du coup.
Pas vraiment.
Bon, mais c'est pas là, de toute manière, Madame Henriette. N'ergotez point.
Eh bien, je ne sais pas. Dites-nous, est-ce que c'est du côté de la perfide Albion ?
Eh bien, oui.
Évidemment, on vous connaît maintenant.
Eh oui, eh bien, c'est le fameux saccage, la fameuse expédition de Lindisfarne. Voilà, expédition dont plusieurs aspects sont mythiques, hein, y compris le chef de cette expédition. Mais voilà, c'est la fameuse expédition où les Vikings vont venir saccager un monastère au nord de l'Angleterre. Voilà.
Vous pouvez en dire deux mots parce que vous nous dites fameuse et je pense que vous êtes pas nombreux à savoir de quoi il s'agit.
Alors, je pense que beaucoup plus que vous l'imaginez, puisque c'est une des scènes qui est au début de la série Viking, qui avait quand même bien marché, voilà, et qui est donc qui est un moment de choc culturel, pour ne pas dire plus,
oui, alors,
entre les Vikings et l'Occident chrétien.
Choc voilà. Mécanique aussi, d'après ce qu'on a compris.
C'est ça, donc voilà, la rencontre de ces peuples du Nord et de l'Occident chrétien. Voilà, alors joyeux anniversaire à Gaël Nicole, hein, sonneur breton de 57 ans, d'Arreyaouank et Blaisirus, et finalement je reste dans la thématique, et Par Sundström, qui a 45 ans et qui est connu pour être le bassiste de Sabaton. Voilà, de la musique pour enfants, hein, n'est-ce pas? Sinon, eh ben, quelques autres noms quand même de gens qui ont décidé de ou pas de partir, en tout cas, eux aussi. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Consoles Benedicto, qui était une comédienne espagnole, Thérèse Lyotard, qui était une actrice française qu'on avait vue dans La gloire de mon père et dans La mort en direct. Peter Helm, qui était un Canadien, un acteur de série des années 60. Lucienne Hamon, qui était une grande comédienne française, mais qu'on avait vu aussi chez Robert Enrico et Louis Malle. Pierre Denis, qui était un acteur de série française. Josefina Molina, qui était une réalisatrice espagnole. Kelly Curtis, qui n'était pas que la sœur de Jamie Lee Curtis. Marcia Lucas, qui était la monteuse, un peu malheureuse dans sa vie privée, mais comme son nom l'indique, voilà, l'ex-femme de George Lucas, et donc qui était donc la monteuse de Star Wars. Areski Belkacem, qui était un comédien et un chanteur libertaire, et qui était le compagnon de Brigitte Fontaine. Félixas...
qui avait formé un trio avec Jacques Higelin.
Absolument.
Donc Brigitte Fontaine, Areski et donc Jacques Higelin.
Absolument. Félixas Bajoras, qui était un compositeur lituanien. Toto la Mamposina, qui était une chanteuse colombienne. Dick Parry, saxophoniste anglais. Joel Topp, musicienne néo-zélandaise. Sonny Rollins, saxophoniste de jazz assez connu. Peebo Bryson, qui était un chanteur de rhythm and blues. Alan Bradley était un écrivain canadien. Carlo Petrini, écrivain italien engagé. Benoît Rey, écrivain libertaire, décidément. Robert Daly, qui était un écrivain américain, entre autres Le Prince de New York, L'année du dragon ou Dans l'ombre de Manhattan, ça vous dit quelque chose ?
Absolument, ouais, ça va, ouais.
Maureen Duffy, qui était une poétesse anglaise. Marie-Jo Lafontaine, artiste belge. Julio Leparc, artiste franco-argentin. Sidney Mokomad, qui était un anthropologue maori. Voilà. Et puis, je voulais citer aussi deux noms qui comptaient pour moi particulièrement. Alors, John Blanche. Et John Blanche, c'était le directeur artistique et donc un illustrateur très, très, très important, directeur artistique de Games Workshop. Voilà, et qui avait été illustrateur pour des livres sur Tolkien dès les années 70. Donc voilà, il manquera à tous les fans d'imaginaire comme moi. Et je ne peux pas ne pas saluer la mémoire d'une grande dame, et j'avais oublié la semaine dernière de le faire, en l'occurrence Huguette Bouchardeau, première femme à avoir dirigé une organisation politique dans notre pays. Voilà.
Merci, Monsieur Kogan.
Est-ce qu'on a le temps pour quelques dates?
Alors vraiment quelques dates, parce que on a tous été très longs, donc vraiment les dates que vous voulez absolument recommander, Monsieur Kogan.
Alors absolument, un show musical et dansé à Guéret, ce sera à 20h30 et ce sera le mardi 9 juin à l'espace Fayol. Autre chose très rapidement, donc évidemment j'ai perdu ma page. Bah oui, alors du coup je suis complètement coincé. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est de regarder évidemment le programme de Au bout du compte, mais n'en restons pas là au niveau théâtre ou autre, hein, puisque il y a par exemple du 10 au 12 juin les Fourberies de Scapina. Donc on se doute que c'est une réécriture d'un classique, et ce sera du 10 au 12 juin à 20h30, et ce sera donc à l'espace Nauriac. Et puis je voulais quand même parler très rapidement du festival de BD de Saint-Léonard de Noblat. Ce sera place Denis Dussous comme d'habitude, voilà, et ce sera les 13 et 14 juin, donc à Saint-Léonard, un festival de BD avec des grands noms et avec toujours une très très bonne ambiance. Et puis
vous avez quelques noms de dessinateurs ou sous la main?
Alors, là, vous me prenez de court.
Ah bon, mais c'est pas grave.
Non, mais vous, alors, les gens ne seront pas déçus, je peux vous le dire. Et puis, ben, du théâtre, toujours au Vieux Château, donc, dont je parle souvent à Vic-sur-Breuil, et c'est donc le 13 juin à 20h, L'Ours, le Jubilé et autres plaisanteries d'Antoine Tchekhov par le théâtre de l'Écale. Voilà, et puis, ben. Écoutez, je parlais d'Au bout du compte. Donc, Au bout du compte, c'est ce festival qui se déroule un peu partout en Dienne. Et donc, voilà, les 10, 11 et 12 juin, par exemple, il y aura des contes un peu partout, dans Bazac à Ille, en passant par Blon et Émoutier. Vous avez tout un tas de conteurs qui viennent généralement dans les médiathèques et les bibliothèques de votre ville, pour Limoges, par exemple. À la Batide à 16h, mercredi 10 juin. C'est Monia Lioryd qui vient à la Batide, donc à la BFM, raconter Croque en jambes. Et puis, je suis un peu désolé d'avoir perdu. Ah si, quand même, je ne peux pas ne pas saluer un concert au Petit Jourdan, ce lundi 8 juin. Ça s'appelle Pop Crimes. Et là aussi, vous ne regretterez pas votre détour. Je finirai par un concert au calme. Un concert au calme, c'est Marble Eye, qui est donc un groupe de rock californien qui vient donc au calme. Le calme, c'est comme à la maison. Voilà, vous en avez déjà entendu parler. C'est cette salle qui se trouve à côté de l'université, à côté de la fac de sciences, 123 avenue Albert Thomas. Et donc, c'est du rock californien. Donc, c'est le 12 juin à 19h. Et puis, je peux m'arrêter là.
Ben, très bien, Monsieur Kogan. Oui, Madame Ariad, vous vouliez rajouter quelque chose, une date?
Pour une fois, je n'avais aucun commentaire à faire.
C'est incroyable. Cette émission finit mieux qu'elle n'a commencé.
Ah, bravo.
Allez, c'était Je m'ennuie bien. On remercie tout le monde, tous nos chroniqueurs. Donc, vous avez compris, il faut aller voir Monsieur De Gaulle et la défaite de la France en 1940, c'est bien ça? Non, pardon. Et pour garder le moral. Bon, allez, en tout cas, on se dit à la semaine prochaine. Non. Ah voilà, c'était Je m'ennuie bien. Portez-vous bien.
Excellente semaine à tous.
Quel à vous.
Mon cœur déjà ne la connaît plus.